Ouvre grand tes oreilles, panda.
Skadouche.
Si je vous dis dragon, Madagascar, les Croods, Kung Fu Panda, Shrek ou les Trolls, vous penserez peut-être à DreamWorks, ce studio d'animation né dans la tête d'un trio fou, poussé à la fois par l'ambition, le désir d'indépendance et la soif de revanche. Je suis Mathieu Charrier, DreamWorks Animation, 25 ans d'aventure, épisode 3, c'est parti.
Écoute, petite âne, je suis un ogre. Ah, j'ai peur qu'il ait l'air monstre horrible.
On devrait peut-être leur dire qu'il n'y a plus d'essence dans le bateau.
Non, on leur fait coucou, les petits gars.
I like to move it, move it. You like to move
it. On est des vikings, ça fait partie des risques professionnels.
DreamWorks, 25 ans d'aventure. Épisode 3, un souffle nouveau. Mathieu Charrier.
Le début des années 2010 signe un nouveau tournant chez DreamWorks. Certes, le dernier Shrek, le numéro 4, il était une fin, fait de nouveau un carton. Près de 5 millions d'entrées en France. Mais Katzenberg le sent, les sagas s'épuisent. Il faut une nouvelle fois se renouveler.
Tu nous files un cours avant, non ?
Rien n'est mieux, les enfants, que d'apprendre sur le tas.
Alors, tout en continuant à produire des dessins animés rigolos, il a une idée. Pourquoi ne pas adapter ce livre « Harold et les dragons, comment dresser votre dragon » de Cressida Cowell.
Ailleurs, les gens ont des souris ou des moustiques. Nous, on a des... dragons.
Je vous le disais, Katzenberg a envie de diversifier ses productions. Alors il transforme cette histoire de dragon, légère, initialement écrite pour les jeunes enfants, en un récit beaucoup plus universel.
Papa, je peux pas tuer de dragon.
Bien sûr que tu vas tuer des dragons.
Je suis positivement sûr de chez sûr que non.
Le récit est plus épique, plus grave. Dans le premier opus, par exemple, le jeune héros Harold se retrouve amputé de la jambe.
Ça n'a rien de drôle, je t'en prie.
Cette décision a fait débat au sein du studio de production. Et les transfuges de Disney chez DreamWorks l'affirment. Cette gravité, cette audace n'aurait pas été possible chez Mickey. Gersant Bolu, co-auteur du MOOC « DreamWorks de la Lune aux étoiles », édité chez Inis.
Alors là aussi, c'est une histoire de trahison. On en revient toujours à ça. En fait, les réalisateurs du premier Dragon sont des petits génies, Chris Sanders et Dean DeBlois, viennent de chez Disney. Ils ont réalisé un des meilleurs Disney des années 2000, qui n'est pas forcément le plus connu, mais qui, en tout cas, pour les amateurs d'animation, fait partie des fleurons du studio, c'est Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, qui est une comédie absolument délicieuse, détonnante, et justement assez révérencieuse, puisque c'est dans un univers à la Elvis Presley, avec un petit monstre qui détruit tout sur son passage. Il pourrait avoir un côté sale gosse comme Shrek, effectivement. John Lasseter, qui était revenu aux manettes chez Disney à l'époque, donc John Lasseter, le patron de Pixar, n'a pas aimé Lilo et Stitch. Il l'a fait savoir au réalisateur, il n'a pas du tout aimé. Le film a été un succès très honorable, artistiquement reconnu, mais il ne l'a pas aimé. Et les réalisateurs étaient sur le projet suivant, qui était Volt, star malgré lui, l'histoire d'un chien qui est star d'une série télé, mais qui croit qu'il est vraiment une star, bref, un héros. Et en fait, ils travaillent dessus et il y a des divergences énormes avec John Lasseter et finissent par quitter le projet. Ils sont évincés du projet, ils quittent Disney. Le film sortira finalement avec un scénario largement remanié et un petit peu plus consensuel. Et ils partent évidemment chez DreamWorks, puisqu'évidemment, Jeffrey Katzenberg, voilà une opportunité en or. Et c'est là où ils vont pouvoir réaliser Dragon et par la suite également Croods.
Et puis, vous avez peut-être remarqué que les dragons ne parlent pas. Et oui, ça aussi, c'est une première. Rappelez-vous, dans Shrek, c'était un âne bavard. Dans Madagascar, le lion, il parle aussi. Tout comme Po, le panda maladroit de Kung Fu Panda.
Oh, tu jacasses! Tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses!
De
tu jacasses!
De ce...
tu jacasses!
Non, espèce de gros tas de...
Mais pas nos dragons. Dean DeBlois, réalisateur de la saga Dragon.
L'une des choses les plus incroyables apportées au monde de dragons par Cressida Cowell, l'auteur des livres, est d'avoir créé un univers dans lequel il n'y a pas qu'une espèce de dragon, mais plusieurs, chacun possédant ses propres attributs et personnalités. Nous, je parle de l'équipe qui a réalisé les films chez DreamWorks, nous avons donc décidé d'exploiter cette idée. Nous voulions toutefois que les dragons ne parlent pas, de façon qu'on puisse imaginer qu'ils existent, quelque part, dans notre monde. Nous nous sommes donc inspirés d'animaux que vous pourriez reconnaître, comme un perroquet, un morse, un cheval, un chien ou un chat. Cela leur donne une vraie spécificité et une existence à part entière. Nous avons beaucoup appris en faisant référence au monde animal et en trouvant des manières de l'adapter aux nombreuses espèces de dragons qui apparaissent à l'écran. And finding ways of transplanting that into the many breeds of dragons that we have on screen. Alors, dès la sortie du premier dragon, les critiques sont dithyrambiques et le public est au rendez-vous.
Oh, on l'a pas vu venir celui-là.
Pourtant, ce n'était pas gagné. Car un peu plus d'un an avant la sortie du film, les réalisateurs et scénaristes qui travaillent sur Dragon sont licenciés. Dean DeBlois, là encore un ancien de chez Disney, est appelé à la rescousse. On n'a plus le temps, il faut sauver le projet Dragon.
Tu nous as sauvé la vie.
On s'est tous sauvé la vie.
Pour le graphisme et l'esthétique, le studio a même l'idée de faire appel à Roger Deakins. Oui, oui, le directeur de la photographie des frères Coen, dont on a encore récemment parlé, car il est l'un des architectes du fantastique 1917, le film de Sam Mendes. C'est lui qui va superviser la lumière du film et magnifier ses paysages nordiques.
J'appelle ça une cervelle. Je suis presque sûr que c'est de là que viennent les idées.
Quant à la musique, c'est John Powell qui est recruté. Le réalisateur explique qu'elle représente 50% de la manière de raconter l'histoire.
Brasé, je veux de l'émotion, du suspense, de l'angoisse. Fais-nous vibrer.
Autre point important, chaque animateur et son équipe est chargé de ne travailler que sur un seul personnage. C'est une technique employée chez Disney, l'idée étant qu'il s'approprie ce héros pour le faire évoluer encore plus justement et facilement. Résultat, un graphisme qui fait mouche.
C'était dangereux.
Non, c'était beau.
Alors dès le départ, Dean DeBlois, le réalisateur, envisage de décliner Dragon en trois histoires. Mais Katzenberg ne veut pas précipiter les choses. Il faudra attendre 4 ans avant la sortie de Dragon numéro 2, c'était en 2014. D'ailleurs, ce volet fonctionnera un petit peu moins bien que le premier, notamment aux États-Unis, comme si avec l'attente, l'excitation était retombée. En France, c'est tout le contraire.
On est des vikings, on est un peu butés sur les bords.
Mais où les scénaristes sont-ils allés puiser leur inspiration ? Eh bien, dans Star Wars notamment, oui, dans l'Empire contre-attaque. D'ailleurs, rappelez-vous, dans Dragon numéro 2, Harold, toujours aidé de son dragon croque-mou, ne va pas retrouver son père, mais sa mère.
Après toutes ces années, comment est-ce possible ?
Je vous connais, vous ?
Non, tu n'étais qu'un bébé. Mais une mère, elle, n'oublie jamais.
Et puis attention, spoiler. À la fin du film, le père d'Harold meurt. Une idée insufflée par le réalisateur Guillermo del Toro, qui a lu le script.
Film épique, enfin trilogie épique, récit initiatique avec ce petit garçon Harold qui en fait doit effectivement continuer dans la lignée de sa famille, de son père, c'est-à-dire chasser les dragons, etc. Et il refuse parce qu'il est un peu frêle, un peu chétif, et il voit pas pourquoi il chasserait les dragons alors qu'il vient de se lier d'amitié avec un dragon très recherché qui en fait est facilement apprivoisé et montre qu'il est tendre et peut être il va en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Et en fait, c'est ça la grande force du film et de la trilogie, c'est l'ouverture à l'autre, la tolérance, mais fait de manière fine, c'est-à-dire pas asséné avec les gros sabots. Un parti pris à la fin du premier film où le héros comme le dragon sont fragilisés physiquement et qui n'aurait jamais pu arriver chez Disney. En fait, Disney, il faut pas toucher physiquement au personnage, c'est pas possible.
En parallèle, DreamWorks tente de lancer de nouvelles sagas, Megamind d'abord, et puis les 5 légendes, passées relativement inaperçues. Et puis voilà l'arrivée d'une famille préhistorique un peu particulière, les Croods.
Oh, ça faisait une éternité qu'on était dans cette caverne.
3 jours, c'est pas une éternité.
Et là, c'est un carton. Nate Wragg, production designer.
Dealing with classic tales, you know.
En traitant des contes classiques, comme dans Shrek, Le Chapoté et tous les films du genre, on a vraiment détourné les contes traditionnels et pris beaucoup de plaisir à ça. Avec les Croods, on a dû inventer cette période, qui n'a jamais vraiment existé, mais que nous avons traité comme si c'était le cas. Notre logique a donc été de concevoir des personnages qui sont en fait des hybrides. Par exemple, Douglas est l'animal de compagnie d'un des personnages, et c'est un croco-chien, c'est-à-dire moitié crocodile, moitié chien, comme si c'était arrivé à une époque. Avec un film, il y a toujours toutes sortes de défis à relever. Et que ce soit tiré d'une fable classique ou qu'il s'agisse, comme nous avec les Croods, de réinventer la chronologie de la Terre, j'ai le sentiment qu'à DreamWorks, on nous laisse le champ libre pour jouer et être créatif.
Mais Dragon et les Croods ne doivent pas faire oublier que DreamWorks traverse alors une période un petit peu plus compliquée.
De 3 films chaque année, le studio passe à 2.
Vous êtes tous complètement fous.
C'était dangereux.
Non, c'était beau.
En 2013, par exemple, DreamWorks sort Turbo, l'histoire d'un escargot qui n'a qu'une obsession, être le plus rapide possible, ce qui ne plaît pas à ses compatriotes, ni au public d'ailleurs. Le film peine à dépasser les 300 millions de recettes. On est loin des scores habituels chez DreamWorks.
C'est un escargot ! Qu'est-ce qu'il y a tant que ça à faire sur un escargot ?
Bon, ça suffit ! Cette équipe technique a besoin d'un changement de direction !
Et surtout, Planes, sorti par Disney Pixar, rapporte tout autant, avec un budget 3 fois inférieur. Alors, en janvier 2015, DreamWorks ne va pas très bien. 500 personnes doivent être licenciées, un quart de ses effectifs. Et surtout, l'entreprise est obligée de vendre son siège historique. Vous savez, celui de Glendale, dont on parlait dans le premier épisode de ce podcast.
On s'est fait balancer, les petits gars.
Si tu as de la crotte, c'est le moment de la lancer.
Et un an plus tard, en 2016, Katzenberg prend une décision radicale. Il vend DreamWorks Animation à Comcast, qui détient notamment Universal et MacGuff, producteurs des Moi Moche et Méchant.
Règle numéro 1.
Pas le droit de pleurer, de chouiner, de rire, de ricaner, d'éternuer, de rôter ou de péter. Bref, aucun petit bruit énervant, compris ?
Papa dame ? Hein ?
Prix de la transaction, 3 milliards 800 millions de dollars.
Oh, ça, je kiffe.
Steve Burke, le patron d'Universal, explique alors qu'il veut rapprocher DreamWorks de son propre studio pour faire, je cite, « grossir les offres de films, de programmes TV, de parcs à thème et de produits dérivés ». Katzenberg empoche au passage 400 millions de dollars et affirme n'avoir aucun regret. « Je n'ai pas de rétroviseur », dit-il. On lui doit 400 films, presque 50 films d'animation et 75 séries télé.
Ça marche ! Ouais, ouais, j'ai réussi !
On ne peut pas le comparer à un artiste digne de John Lasseter, par exemple, qui a quitté Pixar maintenant. C'est plutôt d'abord un homme d'affaires avisé qui a senti l'air du temps, qui a réussi, comme je le disais, à adopter donc, les codes du film Emprise du Viril, parce que c'est aussi à lui qu'on doit, qui veut la peau de Roger Rabbit, par exemple, donc un énorme succès des années 80. La patte Katzenberg, c'est finalement un ton plus adulte, un humour donc plus potache aussi. Finalement, c'est quelqu'un qui arrive à surfer sur les tendances. Je dis ça sans mépris, hein, c'est juste un homme avisé, comme a pu l'être Walt Disney pour le côté homme d'affaires. C'est plutôt une volonté de développer des franchises, de trouver des mascottes et évidemment d'avoir un studio à même de faire trembler Disney, ce qui finalement il aura réussi à faire, puisque dans les années 2000, on a aussi l'émergence d'autres studios qui, voyant le succès de DreamWorks, parce qu'avant DreamWorks, personne n'osait se mesurer à Disney, c'était même impensable. Et après, on verra Blue Sky avec L'Âge de Glace, on verra Sony plus tard avec Spider-Man. Ces films-là, finalement, sont arrivés grâce à DreamWorks, parce que Disney, pour la première fois de son existence, a senti vent tourner. Et le public, finalement, se détourne un petit peu. Ce qui, finalement, a du bon aussi, puisque Disney s'est remis aussi en question et est revenu avec des films un petit peu plus innovants et aussi brisant leur propre code, finalement.
Alors, depuis, DreamWorks se développe. Guillermo del Toro, conseiller de l'ombre, est officiellement recruté en 2018. Il signe un contrat pour produire et réaliser des œuvres familiales. Katzenberg ironise d'ailleurs que depuis son arrivée, le taux de mortalité dans les dessins animés a augmenté de 100%.
Ce gros panda mou ne peut décemment pas être la solution à notre problème.
Un retour de Shrek a bien été envisagé, le 4e épisode datant de 2010, mais le projet a été repoussé au profit d'Abominable, une relecture du mythe du Yeti, sorti en 2019. Et le studio a aussi relancé deux franchises, avec les seconds épisodes des Trolls et des Croods.
L'avenir de DreamWorks, ça passe pour l'instant par des franchises. C'est-à-dire que si on regarde pour l'année 2021, on a Baby Boss 2, donc une suite. On a Spirit, Riding Free, qui est la suite de Spirit. On a un film original dont pour l'instant on ne sait pas grand-chose, The Bad Guys, donc c'est le premier film original. Et pour 2022, si tout va bien au vu du contexte sanitaire, on a un cinquième Shrek. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que contrairement à Disney qui souhaite revenir à des films prototypes, à essayer de ne pas décliner tout de suite, ils ne sont pas encore sur la Reine des Neiges 5 par exemple, DreamWorks pour l'instant recycle un peu ses franchises, sans doute en recherche d'un nouveau souffle et certainement d'un nouveau leadership, parce qu'effectivement, en l'absence de Katzenberg, on peut se demander d'une certaine manière, toute proportion gardée comme Ghibli, si ils vont pas s'éteindre avec le départ de la personne qui finalement portait à bout de bras ce studio.
Quant à Katzenberg, avec qui nous avions commencé ce récit, il vient de fonder une nouvelle société, Quibi, qui produit et diffuse des vidéos dédiées uniquement au mobile. Fidèle à ses habitudes, il a déjà signé des contrats avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez ou Steven Spielberg. Encore lui.
Fin de l'histoire.
Wow, alors ça, je dois dire que je m'attendais pas à une chute pareille. Moi, mes histoires finissent jamais comme ça.
Eh bien, pour d'autres fins et d'autres histoires surtout, rendez-vous dans un prochain hors-série de Clap. À bientôt.